Une vache égarée sur la route, un désaccord sur une clôture, un trottoir à refaire et ces commerces qui périclitent, ces classes d'école qui ferment, ces familles en difficulté. C'est à lui qu'on viendra s'adresser en priorité, le ou la maire, premier magistrat de sa commune et tout premier maillon de la démocratie. Un élu local auquel on demande de s'occuper de tout mais qui a de moins en moins de pouvoir, dépossédé en partie, c'est en tout cas le sentiment qu'il a, par l'intercommunalité. D'où le malaise exprimé notamment pendant le grand débat, malaise auquel veut tenter de répondre le projet de loi Engagement et Proximité présenté par le gouvernement cette semaine. Une trentaine de mesures qui touchent aux indemnités, aux protections, à la formation des élus. Un plan dont l'objectif est aussi, à 8 mois des municipales, de rendre le mandat plus attractif. Alors est-ce le cas? A-t-on pris la mesure de la désaffection des citoyens en direction de leurs élus? Si désaffection il y a vraiment. A-t-on pris surtout la mesure des difficultés d'exercer sa fonction d'élu local au quotidien, dans l'intérêt général? Pour répondre à ces interrogations, nos invités ce soir, Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, chercheur au CEVIPOF de Sciences Po, bonsoir.
Bonsoir.
John Billard, maire de Le Favril en Eure-et-Loir, vice-président de l'Association des maires ruraux de France,
bonsoir.
À vous. Et puis dans un instant, par téléphone, nous serons en ligne avec Nathalie Appéré, la maire de Rennes, qui témoignera d'une toute autre expérience à la tête d'une ville plus importante. Être maire en France, aujourd'hui, est-ce un sacerdoce? C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur la boîte mail de l'émission.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Et pour commencer, le témoignage d'une élue, justement, Madame Priotto, Christine Priotto, maire de Dieulefit dans la Drôme. Bonsoir Madame.
Bonjour.
Alors vous avez décidé de ne pas vous représenter, je crois, à cause du comportement de vos administrés que vous jugez trop individualiste, en tout cas peu sensible à l'intérêt général, c'est ça?
Alors à cause, ce serait un bien grand mot puisque je suis engagée quand même depuis longtemps, mais c'est vrai que moi je sens un glissement dans l'attitude des citoyens par rapport aux services publics en général, et c'est vrai que ça devient extrêmement difficile. Je dis toujours la formule auparavant, nous, notre rôle, c'était de gérer des projets au bénéfice de la collectivité et de l'intérêt général. Et aujourd'hui, on est sans cesse harcelé par des demandes qui relèvent vraiment de choses individuelles. Donc, je veux me garer devant chez moi, je veux de l'ombre à la piscine, je veux tel menu à la cantine. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de construire une politique publique qui, par essence, s'adresse au plus grand nombre, en étant sans cesse tiraillé par ces demandes individuelles. Et on ne peut plus mener un chantier, par exemple, même un beau chantier, parce que vous savez que pendant tout le chantier, vous allez avoir les pétitions des voisins, voire même la saisine du tribunal. Ça, c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup France Inter, c'est Christophe André, j'adore sa chronique, il n'y a pas très longtemps, elle a fait une chronique qui s'appelait « Et moi, et moi, et moi oui. », qui décrivait, je trouve, très bien l'état d'esprit de notre société. Oui. Et je crois que c'est en train de mettre en danger tous nos services publics, parlez-en avec les urgences, dans les hôpitaux. Je pense que nous tous qui sommes devant, on ne peut plus, quoi. On en a assez, en vérité, de ces comportements.
Mais ça n'a pas toujours été comme ça ?
Moi, je suis maire depuis 11 ans. Je suis élue depuis 2004. Je vois vraiment, je pense qu'il y a un glissement. Moi, je suis d'une génération où mes parents étaient des militants, éducation populaire, etc. Donc, je connais très bien le monde associatif. Je crois qu'ils ont le même problème que nous. Avant, les citoyens étaient investis dans les associations. Aujourd'hui, on vient, on amène son enfant au club de foot et puis on revient le chercher plusieurs après. Par contre, on s'implique plus dans l'organisation du club ou autre. Il y a une forme de... Je ne veux pas tout noircir parce qu'il se passe aussi de très belles choses dans nos communes et il y a des gens avec des énergies formidables au profit des autres. Mais quelque part, c'est un peu comme si les citoyens étaient devenus des consommateurs et qui prennent nos mairies pour des fournisseurs de services. Et ça ne peut pas fonctionner parce que d'abord, il y a des problèmes financiers. Je veux dire, quand on exige tous les jours des choses... Je donnais un exemple tout bête quand j'ai appelé tout à l'heure. Bon, nous, on a une piscine très jolie, qui a 60 ans, là en fait c'est 60 ans cette année, bon, elle est scalée, les gens l'aiment beaucoup, bon. Pour la première année, des gens viennent nous demander de construire des ombrières à la piscine.
Donc, de construire,
parce qu'ils trouvent qu'il y a des ombrières, vous savez, parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de soleil, ils voudraient être à l'ombre, bon. Le problème c'est que avant ceux qui voulaient être à l'ombre, ils emmenaient leur parasol. Donc, ils réglaient leurs problèmes personnels, ils s'arrangeaient eux-mêmes. Mmh. Aujourd'hui, il faut que la collectivité dépense beaucoup d'argent, puisque ça coûte cher, tous ces équipements, pour répondre à leurs aspirations. Et ça, c'est plus possible.
Surtout que votre commune est une petite commune, 3200 habitants.
C'est ça.
Mmh. Et donc, vous ne vous représentez pas, c'est définitif?
Oui, moi, je l'ai annoncé. Je suis quelqu'un de franc et j'ai pris cette décision et je la tiendrai. Voilà, je pense aussi qu'après deux mandats de maire, il faut qu'il y ait des nouvelles énergies qui prennent le relais, tout ça, parce que voilà, quand on est très impliqué, on s'use un peu aussi. Donc voilà, je vais faire un pas de côté, passer à autre chose. J'y viens d'avoir 50 ans, c'est vrai que j'avais commencé à être élue assez jeune, mais voilà, je vais me consacrer peut-être à d'autres tâches aussi pour l'intérêt général, mais je ne serai plus maire, non.
Merci de nous avoir appelé en tout cas, Christine Priotto, maire de Dieulefit dans la Drôme. Un témoignage qui corrobore tout à fait votre étude, Luc Rouban. Hein, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur au CEVIPOF de Sciences Po, et vous avez fait paraître hein, ces jours-ci une enquête justement sur les élus locaux, les maires, dont 50% à peu près hein, ne souhaitent pas se représenter en mars prochain.
Tout à fait. Alors ça, c'était l'enquête de l'année dernière pour l'AMF, pour l'Association des maires de France. Et cette année, nous avons fait une deuxième vague d'enquête visant cette fois les administrés, c'est-à-dire les habitants des communes. Et c'est vrai que ce témoignage est tout à fait significatif. On a eu des centaines de témoignages de verbatim allant tout à fait dans le même sens, à savoir des maires de petites communes rurales, souvent de moins de 500 habitants, qui se sentent pris entre le marteau et l'enclume. Alors, je ne sais pas qui est le marteau, qui est l'enclume, mais grosso modo, le marteau, c'est plutôt l'État qu'ils accusent de les laisser tomber, de ne pas leur donner de moyens, de couper les crédits, et surtout de les noyer sous des normes de plus en plus complexes et difficiles à mettre en œuvre. Et de l'autre côté, l'enclume, eh bien, ce sont des habitants, des administrés, effectivement, qui ont un comportement de plus en plus consumériste et de plus en plus exigeant, ce qui peut aller parfois jusqu'à des agressions verbales, voire des poursuites en justice. Mais effectivement, le lien citoyen, qui est quand même très fort au niveau communal, se dégrade et subit cette espèce d'érosion, je dirais, sur le fond, qu'on voit s'opérer aussi à tous les niveaux de la société. Alors même que, et ça c'est la deuxième enquête de cette année, on voit bien que c'est quand même encore le maire qui réunit à 71% la confiance.
Alors comment expliquer cette
Justement, c'est pas vraiment un paradoxe, parce qu'on peut très bien comprendre qu'on ait confiance dans le maire, parce que justement, on exerce sur lui une pression permanente et une demande croissante. Et on peut comprendre aussi du côté des maires que cette demande est tout à fait excessive. Mais effectivement, c'est encore le maire qui reste, je dirais, le dernier maillon solide de la chaîne démocratique en France. Et ça, c'est là le problème, si vous voulez, parce que les chiffres sont beaucoup, beaucoup plus bas dès qu'on regarde les conseillers régionaux, les députés. Les députés, c'est 40% de confiance. Hein. Même les sénateurs, c'est encore un peu plus bas, 37%. Donc, dès qu'on passe au niveau national, on est dans un niveau de confiance beaucoup plus bas. Bon, avec des tensions, et vraiment des tensions, parce que là, si vous voulez, au niveau communal, c'est la politique au quotidien, c'est la politique pratique, c'est l'action publique directe. Et évidemment, la situation n'est pas du tout la même dans les grandes communes. Au-dessus, je dirais, déjà, on a un seuil au-dessus de 3500 habitants, mais surtout à partir de 30 000 habitants, où les maires peuvent disposer de moyens, et notamment de personnel compétent, qui peuvent gérer la situation, et aussi d'adjoints qui prennent en charge sectoriellement un certain nombre de demandes.
Alors, sachant qu'en parallèle de ce que vous venez de dire, le maire a de moins en moins de moyens, en tout cas, il a ce sentiment d'impuissance qui s'accroît. John Billard, vous êtes le maire de Le Favril. En Eure-et-Loire et vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Ce ressenti, il est général, ce sentiment d'impuissance?
En fait, l'impuissance, elle vient dans la complexité de la fonction. La fonction s'est beaucoup complexifiée avec le temps. Auparavant, le maire dans son village, il faisait les choses de façon, comme on disait, avec bon sens. Et aujourd'hui, on est contraint par des tas de contraintes administratives qui font que les délais sont plus longs. Je prends l'exemple, vous avez un poteau de téléphone qui est cassé. Aujourd'hui, on va vous dire, hier, à la limite, on se débrouillait pour que ça soit réparé en quelques jours. Aujourd'hui, on va vous demander de faire ce qu'on appelle une DICT, on va vous demander de prendre un arrêté de circulation, on va prévoir ça. Enfin, ça devient très très compliqué. Mais ceci dit, moi je voudrais peut-être profiter pour dire que effectivement le témoignage de ma collègue est exact, mais c'est quand même une belle fonction d'être maire, c'est quelque chose de formidable. C'est sûr qu'il faut aimer se battre. Moi je pense que dans les choses ont beaucoup évolué. Je suis comme ma collègue tout à l'heure, moi ça fait 2 ans que je suis maire, et les choses ont évolué parce que la représentation du maire par nos anciens était pas la même que par les nouvelles générations. peu importe, la société évolue. Et je crois qu'il faut faire de la pédagogie. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ma commune. Hein. Moi, j'ai 350 habitants, donc c'est une petite commune. Et quand un concitoyen demande un investissement, demande quelque chose, je lui dis jamais non, d'ailleurs, parce que pour le coup, c'est qu'il exprime un besoin, donc je suis là pour l'écouter. Ceci dit, après, je lui explique que derrière, il va falloir investir, il va falloir faire des dépenses supplémentaires. Et donc, il faut qu'il apprenne à se poser la question, est-ce que c'est important pour l'ensemble ? Et je crois que c'est ça aussi. On a ce sentiment aujourd'hui qui est pas que chez nos concitoyens, qui est un effet générationnel, un effet de société. Il faut prendre conscience que dès qu'on prend une décision, est-ce que cette décision elle est pour moi ou pour l'intérêt général ? Et le rôle du maire, il est là pour ça, pour rappeler qu'il y a un intérêt général.
Mais est-ce que les maires aujourd'hui ont vraiment le pouvoir de prendre une décision ? Parce qu'on entend beaucoup dire, de la part des élus locaux eux-mêmes, qu'ils sont un peu désabusés, déçus de la loi NOTRe, loi de 2015, qui crée des grandes intercommunalités. Donc il y a eu les grandes intercommunalités, les grandes régions, et dans tout cela, que devient la commune ?
En fait, la loi NOTRe, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé des grandes, ce qu'on appelle nous les interco XXL, et quand vous avez des assemblées de maires, où vous avez 70 ou 100 maires autour d'une assemblée pour un projet intercommunal, pour un débat, ce sont généralement ceux qui ont une aura plus importante. Il y a ceux qui décident à la place des autres, et pour s'exprimer dans une assemblée comme ça, c'est très important, surtout que c'est pas le cas quand on est dans nos petites communes rurales, où c'est plutôt associatif, familial, et on décide ensemble. Ça, c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, le maire qui est élu pour mener un programme pour sa commune, pour faire avancer, il y a des choses qu'il ne peut plus faire sans passer par l'intercommunalité. Donc il y a ce sentiment de perdre son pouvoir, en fait. C'est de dire, aujourd'hui, tiens, telle route, portion de route, elle est à refaire. Oui, mais là, c'est pas à moi, c'est une route qui est gérée par l'intercommunalité.
Donc il faut revoir un peu tout ça, il faut revenir en arrière.
Oui.
Le gouvernement propose, dans son plan engagement proximité, présenté cette semaine, notamment de créer un conseil des maires,
alors,
qui serait un peu l'exécutif et l'intercommunalité serait le législatif.
Donc. Oui. Alors, le conseil des maires, c'est quelque chose que l'association des maires ruraux demande depuis très longtemps, donc on est plutôt satisfait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que d'une intercommunalité à l'autre, les choses ne se passent pas de la même manière. Et je crois que ça a été dit, parfois ça marche bien dès lors que les maires se réunissent pour débattre. On est bien sur une notion de débat. Et après, il y a le conseil communautaire qui, lui, va voter. Et dans certaines intercommunalités, ça n'existe pas. Et certains maires sont exclus. Quand on y a un nombre important, il y a un bureau. Et le bureau ne représente pas la totalité des élus. Et donc, c'est ça aussi que le conseil des maires, ça va servir à avoir une instance de débat pour débattre des projets qui sont structurants. Nous, on va jusqu'à pousser où la décision qui peut être prise pendant ce conseil des maires soit une décision qui soit validée et porté pendant le conseil communautaire. C'est donc en fait l'occasion d'être libre dans l'expression, que chacun puisse s'exprimer. C'est demain, si vous aviez un conseil municipal, vous disiez à la moitié du conseil municipal, écoutez, ce qui est intéressant ce que vous dites, mais on va pas en tenir compte, vous aurez le même phénomène. Mais ça, vous le multipliez par les intercommunalités XXL, vous le multipliez par deux ou trois, et là, ça devient catastrophique. Donc quand on rentre chez soi, c'est-à-dire dans sa commune, on rentre et on est un peu frustré.
Autre question ou témoignage, je ne sais pas, c'est Jean-Louis qui nous appelle de pas très loin, de Paris. Bonsoir Jean-Louis.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Écoutez, depuis 28 ans qu'est créé l'Observatoire National d'Action Sociale dont je m'occupe, nous travaillons énormément avec les maires. Et nous avons constaté ces 28 dernières années un désaveu complet de leur rôle, de leur légitimité dans trois directions. La première, c'est bien évidemment sur le terrain fiscal. C'est vrai que c'est aujourd'hui très démotivant de savoir que on ne lève plus vraiment l'impôt. La suppression de la taxe d'habitation, par exemple, prive les maires du levier fiscal. Or, c'était un contrat intéressant entre les maires et les habitants que de dire, nous faisons des services, nous faisons des prestations, êtes-vous satisfait ou non ? Et au fond, l'impôt était un peu la sanction. Sur le problème territorial, j'ai entendu déjà des témoignages en ce sens. La loi NOTRe a brisé tous les ressorts territoriaux des maires. Un maire, c'est avant tout quelqu'un qui crée du vivre ensemble, du lien social, des repères collectifs pour les gens. Or, plus on élargit bien évidemment les territoires, plus on les rend pratiquement ingouvernables, eh bien, on s'éloigne de la proximité et le maire ne peut plus jouer son rôle de créateur de liens sociaux. Et c'est d'autant plus grave que ça leur a été imposé. Vous avez eu des petites agglomérations, parce que l'intercommunalité, ça peut être une très bonne chose, mais quand vous avez 4, 5, 6, 7, 8 communes. Mais là, c'est maintenant des ensembles très vastes, très technocratiques.
On est allé trop loin, oui.
Oui, je voudrais dire la troisième chose qui est importante, c'est que ce qui fait l'intérêt d'un maire, c'est de créer effectivement des projets du lien social. Et vous avez aussi les normes qui constamment freinent l'innovation, la possibilité de créer des projets pour les maires. Donc quand vous additionnez ces trois difficultés, la difficulté de ne plus être responsable de l'impôt, de ne plus être responsable de son territoire, de ne plus être responsable des projets, vous vous rendez compte que le métier de maire a perdu tout intérêt. Et c'est extrêmement grave. Excusez-moi, parce que je voulais surtout témoigner sur ce point-là. Moi, je suis très, très soucieux depuis de nombreuses années de la déliquescence vraiment de notre société, avec cet égoïsme, cet individualisme. Et les seuls qui pouvaient créer effectivement des contre-freins à l'individualisme, créer de la fraternité, c'était effectivement les maires. Et donc, voilà,
merci.
On les a privés de tout ça, et je crains que ceux qui se représentent ne soient pas obligatoirement, justement, les maires soucieux de porter cette dimension de fraternité dans leur projet.
Merci beaucoup de votre témoignage, Jean-Louis. Luc Rouban, tout cela est très pessimiste, hein, tout ce qu'on vient d'entendre et de dire depuis le début. Bon, faut peut-être relativiser un peu.
Pas tout à fait pessimiste, je dirais plutôt contradictoire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on assiste à une contradiction terrible entre, finalement, un objectif économique ou économiste qui consiste à dire, mais pour être efficace, il faut des communes de grande échelle, il faut de grandes agglomérations, il faut des métropoles, parce que nous faisons à ce moment-là des économies d'échelle. Et donc, tout est beaucoup plus économique et on réduit les coûts publics, ce qui n'est pas faux en termes économiques. Mais de l'autre côté, on a une... Effectivement, c'est ce que disait le monsieur à l'instant, c'est qu'on a une très forte demande de la part des Français, des citoyens, pour plus de proximité. Et d'ailleurs, j'en prends pour preuve deux éléments de dernière enquête. Quand on demande aux personnes, aux enquêtés, quel type de commune ils préfèrent, eh bien 45% vous disent la campagne, 41% vous disent les villes moyennes, 14% vous disent seulement les métropoles. Par ailleurs, puisqu'on parlait des intercos et des intercommunalités, vous avez une très grande majorité des personnes interrogées qui vous disent non, nous on veut garder les compétences de la mairie, les compétences de notre commune, et vous avez qu'une toute petite minorité de personnes qui sont favorables soit au transfert aux intercommunalités, soit aux fusions de communes. Donc si vous voulez, on est parti sur des logiques normatives qui sont très économistes en quelque sorte, et finalement qui ne correspondent pas du tout aux attentes des habitants, et qui correspondent quand même, qui viennent contredire une très vieille histoire, hein, puisque les communes sont les descendants des paroisses, et vous avez une structuration du pouvoir et de la vie sociale en France qui passe essentiellement par le local et les petites communes.
Alors pour aller dans le sens de ce que vous dites, ce témoignage arrivé sur l'application France Inter, je suis maire depuis 2008 d'un petit village, en l'occurrence Larchamps en Seine-et-Marne. Je vais me représenter, vous écrit monsieur le maire de Larchamps, il a 55 ans, je vais me représenter car plus que jamais le maire rural est nécessaire pour des demandes de plus en plus variées, comme on le disait, auxquelles il faut répondre si on ne veut pas que la population s'éloigne encore plus de ses élus, notamment de ces élus nationaux, souvent déconnectés des électeurs. Témoignage peut-être tout à fait différent avec Madame le maire de Rennes. Elle n'est pas encore avec nous, Madame Appéré. Alors un témoignage d'abord, c'est Jean-François qui nous appelle de l'Hérault, mais qui n'est pas maire, je crois. Jean-François.
Non, je suis absolument pas maire. Je suis un habitant depuis 10 ans dans un village de 1800 habitants. Et je dois dire que je suis étonné de cette lamentation autour des maires ruraux. Je veux dire, la majorité des compétences sont transférées aux agglomérations ou aux communautés de communes. Et dans mon agglomération, je veux dire, tous les maires des villages qui sont dans l'agglomération font partie de l'exécutif. Alors, j'ai entendu tout à l'heure d'une manière étonnante qu'il y a des maires qui étaient exclus des délibérations. Mais, alors que, comme l'agglomération n'a pas une personnalité juridique, c'est pas donc on n'élit pas directement les responsables de l'agglomération, ce sont les maires qui représentent les différents villages. Et ces maires n'ont aucun moyens, pas de moyens techniques suffisants, ni de finances, et les agglos ont pris les grandes compétences, leur rôle devrait se contenter avec une petite équipe de 5-6 membres maximum. Moi, dans mon village de 1800 habitants, il y a 19 conseillers municipaux, alors qu'ils ont quasiment pas de grandes responsabilités à prendre. Il y a le fonctionnement de l'école communale, le gendarme ou le garde communal plutôt au niveau du village, etc. Et malheureusement, je vis dans un village rural, viticole comme dans l'Hérault, et comme il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, son rôle qu'il fait le plus souvent, c'est de vendre des terrains agricoles, qui d'ailleurs parfois il déclasse pour en faire des terrains constructibles, et il ne demande aucune garantie aux lotisseurs. Alors ce sont des petits lots, très étroit, les gens construisent donc en hauteur pour avoir un bout de gazon, ce qui fait que ça pose des problèmes de voisinage. De même, les rues sont très étroites, et donc comme les ménages maintenant plus d'une voiture par ménage, ça crée des problèmes d'embouteillage. Le centre-ville, il ne cherche même pas à faire que l'augmentation de population, souvent il ne cherche même pas à voir si la voirie dans le centre ancien est suffisante pour ça.
Merci. Oui, merci Jean-François de votre témoignage. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, John Billard, trop de pouvoir aux agglomérations.
En fait, ce que réclament les maires ruraux, quand je te disais tout à l'heure par rapport à la démocratie, je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est qu'un conseil municipal, même s'ils sont à 19, en fait, ils sont les représentants de la population et ils sont là pour débattre. Et un maire ne peut exécuter une quelconque action que si le conseil municipal a débattu. Donc c'est une sorte de chambre de délibération qui permet de prendre des décisions. Donc après, le nombre, peu importe. L'important, c'est qu'il y ait un nombre suffisant pour pouvoir débattre. Sur les agglomérations, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la façon dont les choses sont organisées. Ce que reprochent les maires, c'est que les compétences sont imposées. Or, depuis très longtemps, dans nos communes, on a su nous se regrouper en faisant des syndicats, dès lors qu'on voyait qu'il y avait un investissement à faire ou quelque chose à organiser. À plusieurs, c'est plus simple. C'est le principe même de l'intercommunalité, c'est de faire à plusieurs ce qu'on peut pas faire tout seul. Et ça, on savait le faire, et on le décidait quand on avait un besoin commun à gérer. Sauf que la loi NOTRe et l'intercommunalité est venue imposer des compétences. Et c'est des compétences qui n'étaient pas forcément prioritaires et surtout qui concernaient pas forcément les problématiques des communes rurales, et notamment dans le développement économique. Et les agglomérations se sont emparées du sujet pour faire développement économique.
Alors là aussi, dans les projets, il est prévu d'organiser une délégation de compétences sur l'eau. Hein,
oui,
un retour aux communes pour l'eau et l'assainissement.
Oui, alors ça c'est typiquement l'absurdité du projet, enfin en tout cas moi je l'exprime comme ça, c'est que nous ce que l'on réclame, et toute association confondue d'ailleurs, c'est que la gestion de l'eau et l'assainissement, ça soit une compétence facultative, et que ce sont les maires qui doivent décider comment ils l'organisent. Donc elle a été imposée par une loi en août l'année dernière, ça fait un moment qu'on dit non, on veut prendre le temps de mettre en place cette compétence, parce qu'il y a cette notion, c'est que quand vous prenez une compétence, on vous la donne, mais elle n'est pas encore organisée, donc c'est pas forcément bien organisé, les conséquences peuvent être financières derrière. Et là, ce que l'on dit, il faut laisser les communes décider ensemble si elles veulent prendre cette compétence au moment où elles sont prêtes de le faire. Et pour contrer cette réclamation de l'ensemble des associations d'élus, dont la MRF a été très très active sur le sujet.
L'association des maires ruraux.
Oui, les maires ruraux, pardon, était très active. Il a été mis dans la loi, alors je ne sais pas comment ça va être traduit, que finalement l'interco va prendre la compétence eau, mais elle peut redéléguer la gestion vers la commune. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Autant laisser les communes s'organiser, et puis après on verra comment. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pour répondre à une question des associations d'élus.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Nous parlons ce soir du mandat de maire, de la fonction de maire et de ses évolutions avec un nouveau témoignage tout à fait différent puisque c'est celui du maire de Rennes, Nathalie Appéré. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Donc on a parlé tout à l'heure d'une relation qui s'est abîmée avec les concitoyens qui sont beaucoup plus en quête de services individuels plutôt qu'avec le souci de l'intérêt général. C'est pas tout à fait la même chose dans une grande ville, évidemment. Vous êtes moins ce qu'on appelle un élu de terrain. En tout cas, il y a plus d'intermédiaires entre vous et la population de façon générale. Quels sont à vous aujourd'hui vos principales difficultés, vos principales revendications?
Vous savez, par rapport aux témoignages de mes collègues que j'entendais, alors évidemment, les échelles ne sont pas les mêmes quand on est dans une grande ville, mais moi je considère qu'il n'y a pas forcément de différence de nature. Ce qui va changer, bien sûr, c'est les moyens dont on peut disposer, et puis singulièrement peut-être le rôle de l'administration municipale qui fait que on est aussi à la tête de moyennes, voire de grandes entreprises. Rennes, par exemple, c'est 5000 agents qui sont effectivement autant de ressources et d'atouts pour gérer les compétences qui sont les nôtres. Mais quand je dis qu'il n'y a pas forcément de différence de nature, c'est que pour moi, la proximité dans la relation, elle reste fondamentalement liée à ce mandat de maire. C'est d'ailleurs ce qui en fait, je dirais, toute la grandeur et tout l'intérêt. C'est le président du Sénat qui aime à dire que le maire est à portée d'engueulade. Et je peux vous dire que dans une ville comme Rennes de plus de 200 000 habitants, moi je mesure au quotidien cette question de la proximité, de l'attente vis-à-vis de nous, de l'interpellation concrète et quotidienne, mais avec un corollaire qui est aussi tout l'intérêt de la fonction, c'est que au-delà de ce lien personnel, c'est également des réalisations extrêmement concrètes. Et ce qui fait, tout l'intérêt du mandat de maire, c'est de voir avancer les projets.
Alors justement,
c'est d'avoir des réalisations, de les voir se traduire, oui, et de se rendre compte qu'elles changent aussi le quotidien.
Alors justement, le premier souci d'un élu local en milieu urbain, j'imagine, c'est d'abord le niveau des finances locales. Parlons-en, on n'a pas encore abordé cet aspect des choses. La taxe d'habitation, par exemple, dont parlait quelqu'un tout à l'heure, a-t-elle été compensée?
Alors, à ce stade, la réforme n'est pas totalement mise en œuvre et il y a encore un certain nombre d'incertitudes sur la manière dont il y aura compensation par l'État. Pour l'instant, c'est annoncé comme une compensation à l'euro, mais vous savez que les maires ont appris à être un peu méfiants parce que ce qui est une compensation à un moment T, au fil des années, on voit parfois cette ressource s'amoindrir. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de maintenir le lien fiscal entre la commune et les habitants. Et moi, je suis très attachée aussi à cette dimension, de façon à ce que nous soyons comptable aussi de l'utilisation des impôts. C'est aussi ça la démocratie, c'est aussi ça la proximité, d'être en situation de faire de la pédagogie et de s'expliquer
bien sûr
sur la façon dont on utilise l'argent public.
La taxe d'habitation doit être compensée par un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Bon, c'est technique, hein, les départements toucheront à la place une part de TVA. Tout ça, c'est une usine à gaz un peu, non? Vous allez vous y retrouver, vous les villes?
Ce que nous souhaitons de toute façon, c'est d'avoir une continuité dans nos ressources. Enfin, on a actuellement un système qui a été mis en place qui s'appelle le capage de la dépense publique, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de faire évoluer notamment nos dépenses de fonctionnement au-delà d'un certain pourcentage très très faible. Alors nous n'avons pas attendu des lois et des mesures gouvernementales pour être précautionneux et économes de l'argent public et faire un certain nombre d'efforts sur le fonctionnement, mais nous tenons aussi à la fois à notre autonomie et puis à la manière dont on va pouvoir répondre au mieux aux besoins. Et ce capage, c'est un peu une limite aujourd'hui dans des communes qui, comme Rennes par exemple, connaissent une très forte croissance démographique, 2000 habitants de plus chaque année, 400 enfants de plus dans nos écoles maternelles et élémentaires publiques. Il faut aussi pouvoir accompagner en mettant en place des services, cet accueil des nouveaux Rennais, des nouveaux habitants. Donc il faut en avoir les moyens. Et donc ce que nous revendiquons d'une manière générale, au-delà des moyens, c'est cette question de l'autonomie et de la souplesse.
Nathalie Appéré, maire de Rennes, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous dans ce téléphone sonne. Sur les problèmes financiers et au-delà, les problèmes de statut, ça figure aussi dans le projet du gouvernement. Est-ce qu'il faut réviser le statut des élus locaux? Est-ce qu'il faut donner, par exemple, plus de moyens aux conseillers municipaux, en tout cas plus de droits spécifiques? Par exemple, il est question de frais de garde des enfants pour les soirées municipales, etc. Est-ce qu'il y a des choses urgentes à voir?
Et ça fait partie, encore une fois, des propositions que l'on réclame. En fait, il faut favoriser l'envie des concitoyens d'aller dans les conseils municipaux pour participer à la vie citoyenne. Et c'est extrêmement important, parce que c'est le principe même de la démocratie. Et pour ça, il faut faciliter. Donc, la garde des enfants, c'est pas de nouveau, puisque c'était sur la parité, une loi sur la parité qui avait proposé ça. La problématique, c'est que les finances des petites communes sont notamment, ou voire dans les autres communes, sont assez limitées. Donc,
c'est l'État qui prendrait en charge.
Alors là, c'est l'État qui prendrait en charge. Donc après, on ne connaît pas les modalités, comment. Mais si ça permet à des personnes qui ne peuvent pas venir parce qu'elles ont des contraintes personnelles, participer à un certain nombre de réunions, que sont les commissions et que sont les conseils municipaux, c'est forcément une bonne chose. Après, il y a d'autres éléments. L'idée, c'est de cette loi que on pousse, donc ça peut aller que dans le bon sens, c'est de favoriser l'envie aux concitoyens de s'impliquer dans la ville.
On peut citer d'autres mesures rapidement. Il y aurait une prise en charge des frais d'avocat, par exemple, en cas de litige pour le maire, pour les conseillers municipaux. 10 jours de congé pour faire campagne, pour attirer les actifs, parce que les élus, en très grande majorité, sont des retraités.
Voilà, alors ça faut être, c'est très bien, sauf que c'est pas tant les 10 jours qui sont intéressants, c'est que si n'importe quel salarié, parce qu'il faut favoriser aussi la diversité des l'exécution d'un mandat, c'est que les 10 jours sont sans solde. C'est-à-dire que est-ce qu'un salarié pourra demander à son patron de partir 10 jours? Donc on pourra pas le refuser, mais pendant 10 jours, il n'est pas payé. Donc comment ça va se passer? La difficulté, elle est là. Donc si on veut favoriser qu'un concitoyen pour se présenter, il faut aussi l'accompagner financièrement pendant cette période, parce que c'est vraiment ça. Parce qu'il faut savoir qu'un élu salarié, il a des temps de disponibilité, mais qui ne sont pas rémunérés.
Luc Rouban, comment rendre plus attractif le mandat de maire? Comment faire en sorte que les élus correspondent vraiment au portrait sociologique du pays, ce qui n'est pas le cas pour l'instant?
Alors là, ça c'est une autre question. Là, vous posez deux questions très différentes, parce que
Un peu lié.
Pas vraiment, non, parce que effectivement, la première question, c'est le statut du maire. Pour l'instant, ce sont des bribes de statut, étant entendu que si on passait vraiment un statut, on transformerait finalement les maires en fonctionnaires à temps plein. Donc, s'ils sont complètement payés par l'État, pourquoi l'État se gênerait ensuite pour les traiter comme des agents de l'État en disant, finalement, c'est nous qui payons, c'est nous qui décidons. Donc, alors là, pour le coup, la liberté va complètement disparaître. Donc c'est assez complexe comme situation. Quant au portrait social des maires, si vous voulez, dans les petites communes...
Rappelons qu'ils sont essentiellement retraités, essentiellement cadres. Il y a très peu d'ouvriers, il y a encore pas mal d'agriculteurs dans les communes.
Oui, là, il faut être plus nuancé.
Il y a très peu de femmes.
Il faut être nuancé, parce que là, c'est une question de taille de commune, et on n'a pas du tout le même portrait social en fonction de la taille des communes. On a vraiment de la professionnalisation avec des diplômés à partir de 30 000 habitants. C'est pas du tout le cas dans les communes rurales, même si on a quand même de plus en plus, il y a un renouvellement générationnel, des nouveaux maires qui sont souvent d'ailleurs des actifs à mi-temps ou à temps partiel, c'est ça le problème, ce que disait monsieur, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit compatible. Donc le problème, c'est que pour que ça soit à peu près, pour qu'il y ait une homologie entre la population des maires les plus nombreux, c'est-à-dire les petits maires, et la population des communes, il faut que ça soit des actifs, il faut qu'ils puissent travailler dans des conditions normales, il faudrait peut-être plus qu'un statut, peut-être envisager un peu plus de personnel territorial, à part une secrétaire, une malheureuse secrétaire, en général à mi-temps, sur laquelle tout repose, si vous voulez, très, très souvent. Donc la question, c'est plutôt les moyens, et peut-être aussi la simplification des normes, et la facilitation du travail. Parce que sinon, après, on rentre dans des logiques qui sont effectivement juridiques.
Plus de moyens humains ou financiers? Par exemple, est-ce qu'il faut revoir les rémunérations?
Revoir la rémunération, c'est bien pour compenser justement le temps où un maire qui est salarié n'est pas payé pendant cette période-là.
Rappelons que jusqu'à 500 habitants, le maire touche 646 euros
voilà,
par mois.
C'est exactement ce que je touche, ouais.
ce qui implique d'avoir un métier à côté, évidemment.
Ah oui, mais tout à fait, parce qu'il faut quand même nourrir sa famille.
Ou une retraite.
On a une famille. mais ce qui est important, c'est surtout les moyens, moi je partage ça, c'est donner les moyens au maire de pouvoir mener sa politique locale. C'est ça qu'il a besoin. Et c'est vrai que vous avez parlé de secrétaires de mairie. Les secrétaires de mairie, ce sont des personnes qui sont extraordinaires et elles sont aussi importantes que les maires. C'est-à-dire que c'est vraiment un binôme qui doit fonctionner. Souvent, elles sont à mi-temps aussi, ces emplois précaires. Elles se partagent sur deux mairies ou trois mairies dans certains cas. Mais j'insiste aussi sur le fait, on parle beaucoup du maire, mais le maire, encore une fois, il est l'exécutif. C'est la diversité aussi du conseil municipal qui est importante. À part les adjoints, qui touchent aussi une partie d'indemnité, il y a aussi tout l'ensemble du conseil municipal qui doit pouvoir venir délibérer, qui doit pouvoir participer à la vie et aux décisions qui sont prises pour la commune. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est toute une équipe. C'est pas que le maire, j'insiste aussi là-dessus, on parle un peu des conseillers municipaux et on parle pas souvent des secrétaires de mairie, mais dans une commune rurale, c'est une vraie équipe.
Autre question, témoignage, qui nous vient de Marion, qui nous appelle du Rhône. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Donc je vous appelle effectivement pour un petit témoignage. Donc moi j'ai 35 ans, je suis globalement engagée dans ce que je fais et en fait j'ai un peu vécu ça de l'intérieur puisque mon père est maire depuis que j'ai 11 ans. Donc je vois à peu près, plutôt pas mal ce que ça peut représenter d'une ville de moins de 10 000 habitants. Et c'est vrai que je trouve que c'est un très bel engagement qui fait énormément de sens. Et par contre, c'est un engagement qui est extrêmement prenant et je vois de quoi je parle. Parce qu'il prend le jour, les soirées, les week-ends, c'est assez ingrat. Avec assez peu de reconnaissance, même si on le fait pas forcément, je pense que pour ça, mais ça fait du bien quand même des fois. Et du coup, je pourrais m'engager potentiellement dans un engagement local, sans parler forcément d'être maire, mais vous parlez d'équipe municipale. Mais à un moment donné, la question se pose derrière, il y a aussi la vie perso, il y a la vie professionnelle. Ça veut dire trouver un équilibre dans tout ça, et c'est compliqué. Et du coup, je me dis plutôt non.
Alors vous pourriez avoir
un profil.
Vous n'êtes pas obligé d'être maire, vous pouvez intégrer un conseil municipal.
Complètement. Non, mais là, vous parlez du coup de maire, de maire, et du coup, la question est encore plus pour le maire. C'est dur, c'est ingrat, c'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est des vrais compromis par rapport à la vie de famille et professionnelle. Et effectivement, pour l'avoir vécu d'intérieur, je le comprends et c'est des questions qui peuvent être amenées à me poser. Et c'est plus simple de dire non que de dire oui, clairement.
Alors merci en tout cas pour ce témoignage. On touche là à une contradiction principale. Vous disiez, Luc Rouman, qu'un statut ce serait peut-être dommageable, mais voyez que sans statut, beaucoup ne peuvent pas y aller. Donc comment fait-on ? Un statut ou pas un statut pour l'élu local ?
Pardon, le statut, il y a longtemps qu'on le réclame pour faciliter l'accès à la fonction. Mais c'est pas avec. Enfin, il faut pas limiter ça à une indemnité, parce que je rappelle que c'est une indemnité, c'est pas un salaire, c'est une indemnité de fonction. Il faut lier à l'engagement. Enfin, de toute façon.
Enfin, ça devient un salaire au-delà d'un certain seuil, évidemment.
J'ai une vision qui est des maires ruraux.
Oui.
Après. C'est un petit peu différent, et même pour la retraite, parce que dans certains cas, c'est différent. Mais on est typiquement dans l'engagement. Enfin, j'entends ce que dit notre auditrice, là. C'est ce que me dit mon épouse, c'est un engagement à 100%. C'est-à-dire que si on n'aime pas ça, si on n'aime pas les gens, si on n'a pas envie de s'engager pour les autres, c'est extrêmement difficile. C'est effectivement ingrat, mais on a quand même des satisfactions quand on fait aboutir un projet. Et c'est ça, en fait. C'est de pouvoir arriver à faire aboutir un projet. Ça, c'est la vraie satisfaction. Et le sentiment des maires aujourd'hui, avec l'intercommunalité où ils gèrent plus toute la totalité d'un certain nombre de projets dans leur commune, ils ont l'impression de ne pas servir. Donc quand on vous est engagé et que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de vos projets, forcément à un moment donné c'est décevant.
Alors cette remarque de Marie par mail, finalement, dit-elle, la question n'est-elle pas à quoi servent les maires ? Des gestionnaires qualifiés seraient peut-être plus efficaces et moins guidés par leurs opinions politiques. Comment se fait-il qu'un minimum de capacité ne soit pas nécessaire pour gérer une commune ?
Mais ça, c'est la démocratie. La démocratie, c'est un élément extrêmement important. Chacun, quelle que soit sa nature, ses compétences, ses idées politiques, a le droit aujourd'hui de se présenter et de faire des projets. Et puis, très simplement, enfin peut-être très façon très courte, c'est que ça coûterait beaucoup plus cher. Aujourd'hui, les maires, les conseillers municipaux, ça représente à peu près 500, 550 000 bénévoles. Et on gère tout. Effectivement, on gère la totalité.
Là encore, on parle des petites communes. Hein,
oui,
communes
oui. On est, hein. Je représente les maires ruraux. Juste pour vous donner une illustration de ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais réparer le ballon d'eau chaude qui a cassé. Voilà. C'est moi qui vais le faire. Donc voilà, dans une grande ville, on va d'abord on va passer un marché, on va demander au service technique de regarder. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça aussi, c'est engagement à la fois matériel et opérationnel.
Et pour répondre à Marie, Luc Rauban, il y a une formation de l'élu aussi qui devrait être proposée dans les mois qui viennent.
Oui, je pense que ça c'est très important, mais je dirais que ce qui est encore plus important, c'est la formation aussi des citoyens, parce que la méconnaissance des institutions et du droit en France est quand même catastrophique, et c'est ce qui entraîne énormément de malentendus, énormément d'attentes déçues, et je crois qu'on en a eu quand même quelquefois l'exemple ces derniers temps de cette méconnaissance, et je pense que vraiment, si on veut que la vie démocratique soit vivante en France, il faudrait vraiment former les enfants dès l'école à un minimum de droits, un minimum de connaissances des institutions et de la complexité dans laquelle du monde dans lequel
ça s'appelle l'instruction civique. Je crois que ça existe un peu déjà.
Oui, ben, ça serait bien à renforcer. Hein.
Merci à vous en tout cas, Luc Rauban, directeur de recherche au CNRS, chercheur au CEVIPOF, Jeanne Billard, maire de Le Favril en Eure-et-Loire, vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Merci à vous. Merci à Claire Destacan pour la réalisation de cette émission, Pierre De Certaines pour la préparation, Mathilde Sour et Emma Ferret pour la documentation. Loïc Frapsos et Stéphane Boja étaient à la technique. Demain, un tout autre sujet, nous parlerons des animaux qui chaque été sont abandonnés sur les bords des routes ou ailleurs. 60 000 chiens et chats abandonnés chaque année. Comment leur éviter ça?